Je vais appeler les intervenants donc de cette seconde table ronde intitulée « De l'éducation populaire à l'éducation artistique et culturelle d'aujourd'hui ». Je rappelle qu'il y aura une troisième table ronde sur le rôle et l'engagement des pouvoirs publics que dirigera Emmanuel. J'appelle donc à cette tribune Laurent Roturier, il est là, je l'ai vu, Bernard Beignet, Marie-Danielle Campion, Frédéric Callens, Éléonore de la Charrière, Marianne Échet, que j'ai vu, Jean-Luc Cazaillon, Juliette Mans, Alain Kerlan et Isabelle Miliès, que j'ai vu aussi. Donc tout le monde. Et puis, évidemment, et Lorenzo, qui a le droit de se mettre et même l'obligation de se mettre au milieu et non pas au bout de la table. Voilà. Donc vous connaissez maintenant la formule, vous savez que vous avez droit au maximum à 5 minutes, mais si c'est plus court, ne vous sentez pas obligé d'aller jusqu'à 5 minutes, que les problématiques, bien, elles seront développées un peu plus tard, que là nous sommes là pour vous écouter. Et j'avoue que cette première table ronde était absolument passionnante parce que je disais à Emmanuel Itis qu'on n'a pas l'habitude, hélas, dans l'espace public, de recueillir vos propres paroles et vos propres expériences. Donc je donne la parole à Laurent Roturier. Je rappelle qu'il est directeur de la DRAC, maintenant Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, c'est-à-dire, il m'a dit, d'un territoire aussi grand que l'Autriche. Donc je le remercie d'avoir franchi tous les sommets pour venir jusqu'à Avignon. À vous la parole, Laurent.
Merci beaucoup. Le soleil ne se couche jamais sur Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Peut-être pour être dans le temps qui m'a été donné, je vais intervenir sous le contrôle de Christopher Miles, secrétaire général du ministère de la Culture. Contrôle bienveillant, naturellement, puisque l'éducation artistique et les politiques que nous menons aujourd'hui lui doivent beaucoup à lui personnellement. Je voulais le saluer avant de commencer. Peut-être pour vous exposer la manière dont une DRAC, une direction régionale, met en œuvre les orientations qui sont celles de la ministre, naturellement. Faire cette comparaison entre ce que disait Fernand Braudel, la civilisation est la plus longue des histoires, et je pense que l'éducation artistique est aussi la plus longue des histoires. Donc parler d'éducation artistique, c'est évoquer le rapport au temps. Le temps long, celui qui forge les relations entre éducation populaire et éducation artistique, je vais y revenir dans un instant, et le temps plus court, qui est le temps de l'administration, le temps des organisations, le temps des fusions et le temps nécessaire à la mise en place d'équipes qui sont dédiées à l'éducation artistique et culturelle. Alors ce temps long, le ministère de la Culture, peut-être on peut trouver les racines de l'EAC et du rapport à l'éducation populaire dans ce que Condorcet, finalement, dans son intervention, dans son rapport sur l'instruction en 1792, disait... l'instruction universelle, égale et aussi complète que possible. C'est ce qui fonde notre action encore aujourd'hui. Peut-être quatre dates, la Ligue de l'enseignement et Jean Massé en 1866, le Conseil national de la Résistance, les grands mouvements d'éducation populaire, peuple et culture, 1959, la scission entre Malraux, ministère de la Culture, création de ministère de la Culture, scission avec Jeunesse et Sport, et puis les années 80 et la montée en puissance progressive des politiques d'éducation artistique. Le temps court, c'est celui d'aujourd'hui, c'est les priorités fortes en direction de la jeunesse que nous mettons en œuvre dans nos DRAC depuis 2012. C'est le développement des actions, des moyens, les volontés conjointes exprimées par les différents ministres. Et évidemment, le temps court, c'est aussi la création de grandes régions, avec une conséquence, la création de grandes DRAC. Sur un territoire aussi important que celui de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 13 départements, ce qui nous montre l'ampleur de la tâche, mais aussi l'opportunité dans ces fusions de revisiter les politiques que nous mettons en œuvre. Et je voudrais dire que cette fusion a été une chance, et ça sera sûrement perçu comme ça dans l'avenir, même si les périodes de changement sont toujours des périodes anxiogènes, mais c'était une période formidable où nous avons pu revisiter nos organisations pour les mettre au service des grandes politiques publiques. Et l'éducation artistique, j'ai la chance de diriger cette maison avec une équipe très solide à mes côtés, et l'éducation artistique est l'objet d'un pôle complet dirigé par Clotilde Castaigne, qui est un pôle d'action culturelle et territoriale qui regroupe 5 conseils aujourd'hui, 6 au 1er septembre et 8 dans les 2 ans qui viennent. Et nous avons travaillé depuis 6 mois avec l'équipe, avec les collègues, pour que nous puissions dédier à des suivis d'action dans l'ensemble des territoires de cette grande région, qu'ils soient en zone urbaine, qu'elles soient en zone rurale, qu'elles soient en zone éloignée, qu'elles soient en lien avec l'ensemble des forces du territoire, les associations départementales notamment, pour qu'il y ait des interlocuteurs identifiés sur chacun de ces territoires. Le deuxième point que je voudrais évoquer très rapidement, c'est la question des valeurs communes entre l'éducation artistique et l'éducation populaire. Vous l'avez évoqué dans la première table ronde, ces valeurs d'apprentissage dans le plaisir, ces valeurs de partage, de vivre ensemble, de solidarité, de laïcité et finalement la citoyenneté que Jean Massé indiquait en disant « il faut faire des hommes des citoyens ». Donc l'enjeu qui est aujourd'hui à l'œuvre dans nos DRAC, c'est de contribuer à l'émancipation des individus de manière à ce qu'il n'y ait personne qui soit au bord du chemin. Alors les grands principes de l'éducation populaire que dans nos DRAC nous prenons en compte, c'est évidemment l'éducation informelle, en complément de l'éducation plus formelle qui est donnée dans le temps scolaire. Et nous insistons beaucoup aujourd'hui dans la DRAC avec Clotilde Castaigne sur la notion de parcours culturel tout au long de la vie, dans le temps scolaire, mais pas uniquement. Et je crois que ce sont ces principes communs, ces valeurs communes qui font que l'éducation artistique et culturelle est un lieu partagé entre l'éducation nationale, l'éducation populaire, le ministère de la Culture. C'est un lieu de partage qui oblige à remettre les cartes sur la table avec une approche qui doit être évidemment extrêmement ouverte. Une politique d'action culturelle en DRAC, ce n'est jamais une politique que nous menons seuls. C'est toujours une politique partenariale. Et l'action de l'État se développe avec les territoires, avec les collectivités, qui sont aujourd'hui les premiers financeurs de la culture aux côtés de l'État, avec les autres ministères, celui évidemment de l'éducation nationale, mais aussi le ministère de la Ville, le secrétaire d'État en charge de l'égalité réelle, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, et nous travaillons sous forme de protocoles, nous travaillons sous forme d'actions qui sont diverses. Et pour ne pas être trop long et pour illustrer mon propos, je voudrais prendre simplement 2 exemples d'actions concrètes que nous menons parmi la multitude de celles que nous développons au quotidien avec des moyens qui sont non seulement préservés mais qui augmentent régulièrement, donc ce qui traduit aussi la priorité qui est donnée à ces politiques-là. Et je voudrais vous parler de ce que nous mettons en place en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, dans les zones rurales autour des résidences de territoire et dans les quartiers avec des résidences de quartier qui se développent dans les zones en politique de la ville. Alors je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre un exemple en territoire rural autour de Hoche, avec une résidence de théâtre forain qui est portée par un label d'État. Label d'État, c'est CIRCA, Centre international des arts du cirque, qui dans son cahier des charges, dans sa mission, mène depuis 3 années une politique d'éducation artistique tout au long de la vie dans l'ensemble de son territoire. Ça se traduit par exemple par l'implantation d'un chapiteau que Gilles Caillot et sa compagnie Attention Fragile ont mis en place avec une présence physique de plus de 2 mois dans le quartier, un prêt de chapiteau aux habitants pour des conseils citoyens, pour des réunions, des ateliers de pratique le soir, en fin de journée, avec les enfants des écoles, avec le collège, avec le lycée. Et tout ce travail qui a été mené sur le quartier du Garros, il a fait l'objet d'une création, une création finale qui s'appelle Garros Paradise, qui a été présenté au festival international que mène CIRCA chaque année au mois d'octobre dans ce quartier. C'est évidemment une action qui est multipartenariale, qui se développe avec la préfecture, avec la jeunesse et sport, avec l'agglomération, avec la collectivité, avec le conseil régional. Et nous sommes au cœur d'un maillage qui permet de développer l'éducation artistique et d'en faire un projet finalement de vie, tout au long de la vie et qui ne s'arrête pas aux frontières de l'école. Nous avons également un exemple qui se poursuit sur Roche avec Ciné 32, qui est une émanation de la Ligue d'enseignement. Donc on voit la suite de l'éducation populaire qui continue aujourd'hui avec un web documentaire qui est en cours et qui traitera des actions sur ce quartier. Mon deuxième exemple, il concerne un territoire rural. Dans cette grande région, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, on focalise souvent sur Toulouse et Montpellier, sur 2 grandes métropoles, mais la réalité de ce territoire, c'est 5000 communes. 5000 communes et un certain nombre de territoires qui ont ce sentiment d'éloignement de l'offre culturelle. Non pas qu'il n'y ait pas de culture dans ces territoires, mais il y a réellement un éloignement par rapport à l'offre traditionnelle ou l'offre qui est perçue comme cela. Et nous avons, par rapport à ce constat, essayé de développer depuis quelques années des résidences d'artistes qui viennent plusieurs mois dans un territoire pour développer un certain nombre de projets à des habitants. Et je pense, et je voulais en parler cet après-midi, à ce qui se passe dans le Tarn-et-Garonne avec la communauté de communes du Quercy-Vair autour de Montclar de Quercy, avec une association qui s'appelle Le Fond et la Forme, qui est une association de documentaristes, donc qui sont venus s'installer pendant 2 mois dans le territoire. Et c'est une documentariste basque, Elsa Oliar, Ginès, qui a passé 2 mois dans cette communauté de communes. Elle a travaillé sur la thématique de la vie rurale et du bonheur, à partir du roman de Giono, Que ma joie demeure, bien connu. Et des passages du roman ont été interprétés en lecture, mis en voix, en jeu décalé, en témoignage autobiographique. Cette interprétation a fait l'objet d'une appropriation par les habitants et par les artistes. Et l'ensemble de la population a été amené dans cette aventure avec une formidable restitution qui s'est faite sur la place du village. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de lieu qui soit inaccessible aux artistes, pour peu qu'il y ait la volonté exprimée par l'ensemble des partenaires publics, et c'est le rôle de l'ANDRAC d'être très présent sur ce territoire-là. Voilà en quelques mots ce que je voulais illustrer dans mon propos, et pour vous conforter dans cette idée que l'éducation artistique s'inscrit dans ce temps qui oblige à chaque génération de reprendre le travail. Et nous sommes aujourd'hui dans cette période avec un questionnement très fort, et je terminerai là-dessus, qui est celui de l'appropriation des outils numériques qui sont aujourd'hui souvent le premier accès à la culture de la jeunesse et pour lequel nos réponses ne sont pas encore à la hauteur de ces mutations que nous constatons tous les jours. Je vous remercie beaucoup.
Merci, merci Laurent. Je donne la parole au recteur, à Bernard Beignet.
Merci beaucoup. Pour beaucoup d'entre eux, on va y arriver.
Oui, quand on les touche trop, ils tombent. Voilà.
Merci. Pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez ignorer les mutations importantes que l'éducation nationale connaît depuis ces derniers mois, avec en particulier l'adaptation qui doit être la sienne aux nouvelles régions qui sont entrées en fonction le 1er janvier dernier. Notre ministère, après un certain nombre de projets divers, a retenu un principe assez simple. Il y a actuellement dans notre pays 30 académies. Ces 30 académies sont maintenues, mais par région. Donc depuis le 1er janvier, il existe plus exactement une région académique. Cela signifie donc que pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a le maintien des 2 rectorats, celui d'Aix-Marseille et celui de Nice, mais qu'il y a en superposition de tout cela une région académique, et un peu à l'image de la représentation entre préfet de région, préfet de département, l'un des 2 recteurs, il se trouve que c'est le rectorat d'Aix qui exercera cette mission, ce recteur est recteur de région. Ça ne signifie nullement d'ailleurs, et mon ami Emmanuel qui est ici présent le sait mieux que moi, il n'y a aucun lien hiérarchique entre ces 2 recteurs. Ce point est important. Cela signifie qu'on attend du recteur de région qu'il soit, et on peut employer cette expression ici, le chef d'orchestre de tout le reste. Quand on regarde les autres régions françaises, il y a d'immenses régions. La rectrice de Clermont, qui est à mes côtés, dans une région considérable, celle qui a réuni 3 régions autour de Lyon. On songe également à Bordeaux, et dans ces cas-là, vous avez 3 rectorats au sein d'une région. Et puis, vous avez des régions qui sont restées telles quelles, la Bretagne, par exemple, Pays de la Loire également, ou la Corse, où il n'y a pas eu de changement de limite, il n'y a pas eu non plus de régions créées, nouvelles, académiques, puisqu'il y a toujours un seul et unique recteur. Donc, une très grande diversité de structures, en tout cas pour l'instant. Le défi qui est le nôtre depuis ce 1er janvier, c'est concrètement comment organiser cette région académique, lui donner du sens, de telle manière, pour faire simple, qu'il y ait de plus en plus une politique régionale avec une application qui peut varier de manière différente selon les rectorats qui ont chacun leur histoire. Dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Emmanuel Itis, nous avons pris un parti qui est, je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail de choses beaucoup trop techniques et qui vous ennuieraient, mais auprès des recteurs, il y a ce qu'on appelle les conseillers techniques, il y en a toute une série. Nous avons décidé de maintenir ces conseillers techniques, et en particulier auprès de nous, le DAAC, c'est-à-dire le délégué académique à la culture. Donc les deux sont maintenus. Mais il nous a paru nécessaire d'avoir une politique unifiée. Et cette politique unifiée fait qu'un des deux recteurs pilote la politique de tel ou tel, de tel, tel domaine. Alors, les relations internationales sont pilotées par Aix, mais pour beaucoup de raisons qui paraissent patentes et évidentes, c'est le recteur de Nice, bien connu ici, qui sera le pilote de l'action culturelle dans toute la région, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et donc, c'est lui qui va piloter les deux délégués académiques, celui de son académie et celui de mon académie. Bien évidemment, nous avons l'occasion de parler ensemble mutuellement de ce que nous avons à faire. Alors, ce point est important parce que, vous venez de le dire, le ministère de la Culture, lui, a désormais une représentation régionale. D'ailleurs, si on veut faire une toute petite extrapolation, je ne vous cache pas que pour l'éducation nationale, le petit défi, c'est que les structures de l'État sont la plupart désormais concentrées au niveau des nouvelles régions, l'ARS, par exemple, en matière de santé, quantité d'autres, et nous avons maintenu des structures plus classiques qui tiennent simplement à la place de l'éducation dans beaucoup de petites communes. Donc il y a désormais une politique qui va pouvoir se faire de manière plus concentrée autour de la direction régionale de l'action culturelle. C'est aussi l'occasion de montrer que nous pouvons avoir ensemble dans les deux académies des actions plus volontaires pour mettre en place les richesses de cette région. C'est sans doute une des régions de France, par exemple, où il y a le plus de festivals durant l'été. Nous utilisons en partie simplement cette énergie, mais nous pouvons faire davantage. Nous avons également, dans nos deux académies, des populations extrêmement diverses. Alors, vous comprendrez assez facilement que le recteur de Nice n'a pas tout à fait la même population scolaire que le recteur de Marseille, surtout dans le nord de Marseille. Le défi est donc différent. Et il faut que nous ayons en même temps une politique qui soit aussi commune que possible, avec un point qui est très important aujourd'hui, et finalement la réforme du collège nous aide beaucoup à cela, quelle est la place de la culture ? Avec une question qui est très simple, est-ce que c'est quelque chose qui vient après les apprentissages traditionnels, une sorte, si vous me permettez, de formule de dessert que l'on peut donner, mais à la limite, sous-entendu, dont on peut se dispenser, ou bien est-ce que c'est quelque chose, au contraire, de préalable qui doit venir avant ? Ce sont des débats que nous n'avons jamais totalement tranchés dans l'éducation nationale. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour l'éducation prioritaire, notre sentiment commun est que cela doit être de l'ordre du préalable et non pas du point ultime. On voit bien que l'inégalité frappante en matière culturelle, elle est abyssale pratiquement. Et c'est en développant une politique commune que nous pourrons probablement faire bouger les lignes dans un certain nombre de quartiers qui sont parfois de véritables ghettos, à tous les sens du terme, pour ces enfants. Vous venez de le dire, monsieur, le grand péril, c'est que nous ayons une société qui se scinde, qui se fracture, qui se divise. Et le monde culturel, paradoxalement, peut conduire à cette fracture au lieu de la résorber. C'est-à-dire que si nous ne voyons pas que nous devons vraiment faire en sorte que ce ne soit pas un domaine réservé à tel ou tel privilégié, au lieu d'aboutir à unifier la population et le pays, ce sera le contraire. Donc nous allons cheminer dans cette voie-là. D'ores et déjà, les deux délégués ont mission de se rencontrer pour mutualiser tout ce que nous avons pu, tout ce que nous pourrons mutualiser, de voir également s'il y a des différences trop importantes entre les deux académies. Il y en avait, parce qu'il faut être très franc à votre égard, les académies s'ignoraient, c'est vrai, relativement avant la création des régions, et même avaient un tout petit peu tendance à faire le contraire de la voisine pour se distinguer l'une l'autre. Donc maintenant, nous sommes au contraire dans une vue totalement différente, et nous verrons d'ici peu de temps, je pense, comment les choses pourront avancer de ce point de vue-là. En tout cas, c'est pour nous aujourd'hui, et je conclurai par là, deux choses importantes. La culture n'est pas quelque chose de superfétatoire, ce n'est pas un superflu, ce n'est pas un supplément à l'éducation, cela en est véritablement la base. Ça, c'est un changement très important. Et deuxièmement, pour ce qui est de la région académique, il va y avoir ce défi d'une politique commune qui va certainement avoir pour conséquence la modification importante de petites entreprises qui pouvaient être conduites de part et d'autre au profit d'entreprises plus importantes. Je vous donnerai un simple petit exemple, c'est qu'au-delà de notre région, nous avons même débordé vers la Corse. Il ne faut pas oublier que, en réalité, je me plais souvent à dire que je suis presque, mais Emmanuel pourrait dire la même chose, le véritable recteur de Corse, puisqu'il y a 100 000 Marseillais qui ont une origine corse, comme il y en a autant qui ont des origines arméniennes, je me garderai bien de revendiquer une compétence sur ce pays. Nice, c'est la même chose. Et donc, récemment, nous avons conclu entre plusieurs collèges de nos trois académies un protocole d'accord, je n'entrerai pas dans le détail, pour permettre à ces jeunes de quartiers d'ailleurs défavorisés de travailler avec de très grands musées de nos trois académies respectives. Et j'ai pu me rendre à Corté pour vérifier le bien fondé et l'application de tout ça. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut que ces réformes se traduisent par quelque chose de tangible sur le terrain. Si une réforme n'aboutit pas à une meilleure administration, un meilleur service public au profit concret des élèves, eh bien, elle ne sert à rien. Nous allons faire en sorte qu'elle serve à quelque chose. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Je passe la parole à Madame la Rectrice de l'Académie de Clermont-Ferrand, Marie-Danielle Campion.
Merci, merci beaucoup, merci de cette invitation à échanger et puis à rendre hommage à l'éducation populaire. Je trouve que le titre de l'éducation populaire à l'éducation artistique et culturelle est un titre parfaitement et remarquablement choisi. Parce que, quelque part, l'éducation artistique et culturelle, elle s'est créée sur la base à la fois du militantisme, sur la base de pionniers, d'hommes et de femmes extrêmement engagés, qu'ils soient dans l'éducation nationale, dans le monde de la culture, dans le monde associatif, pour le faire vivre, à une époque où nos belles et grandes maisons se connaissaient peu. Et quand je dis nos belles et grandes maisons, je crois qu'on peut citer, bien sûr, l'éducation nationale, j'ajouterai l'enseignement supérieur et la recherche, le ministère de la Culture, le monde associatif et le monde pluriel des collectivités territoriales. Et c'est sur ces bases qu'ont été élaborées des conventions, des contrats qui ont permis de stabiliser des cadres juridiques de façon à ce que, entre guillemets, les acteurs de terrain puissent s'y retrouver. Et ces hommes et ces femmes qui font l'éducation artistique et culturelle, qui sont une véritable richesse pour nous, puissent œuvrer. Et je crois que ce point a été évoqué. Quel était un peu le rôle de l'éducation nationale et des recteurs d'académie? Eh bien, s'il ne s'agissait pas du tout, en lien avec le ministère de la Culture, d'être dans un système d'administration administrante, mais bien au contraire, de rechercher la cohérence. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, il s'agissait de l'égalité des territoires et de s'assurer qu'il y ait un véritable maillage du territoire, et puis aussi de valoriser les différentes recherches et d'ouvrir le monde. On avait manifestement donc des hommes et des femmes très investis, et il s'agissait et qui agissait en étant très proche, entre guillemets, du monde du sensible, qui voulait construire des parcours, qui ne voulait pas perdre de traces et qui voulait, bien évidemment, le partage. Donc, à titre personnel, je leur rendrai un hommage appuyé. Et puis, nous voyons bien que la loi de 2013, qui est la loi de refondation de la République par l'école, et je joindrai également la loi qui est la loi de l'ESR, et dans son premier titre, c'est la vie étudiante. Et donc, à travers l'école, il s'agit de changer le monde. Donc, c'est une action de longue durée, et je crois que ceci a été parfaitement cité. Un monde incertain, un monde plein de menaces, et pour qu'il n'aboutisse pas à tous contre tous à un moment X ou Y de nos différentes vies. Bernard Beignet a présenté sa vision du recteur de région académique. Alors moi, je vais faire la vision du recteur qui n'est pas de région académique, le recteur d'académie et d'une toute petite académie à côté de très belles grandes académies. Mais nous représentons néanmoins 38% d'un territoire peu dense. Ça veut dire un sujet de territoire, d'égalité républicaine. Nous avons pour agir, bien sûr, des outils. Mais par contre, et je rejoins tout à fait les propos de mon collègue, Lyon est pour nous une métropole. Et le risque, c'est l'assèchement par une métropolisation des phénomènes de métropolisation. Bien sûr, il y aura d'autres métropoles. Il y a Grenoble, je veux dire, il y a Lyon-Saint-Étienne. Et puis, il y a le pôle métropolitain Clermont-Vichy en cours de construction. Mais on sait bien qu'il peut y avoir des tendances asséchantes. Et là où on peut vraiment se réjouir, c'est que de la part des autorités de l'État, des collectivités territoriales, des responsables, je vais dire, de structures nationales, il y a cette volonté, je veux dire, de nourrir le territoire et de permettre à ce territoire tous les développements. Et donc, j'attends beaucoup, et nous attendons tous beaucoup, des futures conventions qui seront signées et qui partent remarquablement bien. Et puis, nous avons des outils. Alors, pardonnez-moi de parler technique, mais je crois qu'à travers un outil, il y a une volonté partagée, il y a une vision partagée, il y a des objectifs partagés, et puis il y a des moyens qui sont partagés. Nous avons les contrats d'objectifs tripartites. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est entre l'éducation nationale, c'est la collectivité territoriale et puis c'est l'établissement scolaire qui permettent là aussi de croiser les conventions qui existent à l'échelon de la région, du département, de l'intercommunalité, de tout ce qui peut exister, avec la volonté forte portée par un établissement dans la durée. Et je dois dire avec beaucoup de plaisir, c'est que dans le cadre de ces contrats d'objectifs qui ont été signés dans le Cantal, eh bien, systématiquement, j'ai vérifié dans tous les collèges apparaît l'éducation artistique et culturelle, montrant là une très belle application de la loi de refondation de la République par l'école. Alors, après, c'est donc une vraie volonté politique. Après, il faut arriver, c'est à l'égalité réelle. Et l'égalité réelle, c'est quoi? Eh bien, l'égalité réelle, c'est sur le temps scolaire, le périscolaire et puis, je vais dire, le hors-temps scolaire. Sur le périscolaire, ce sont tous les projets qui peuvent exister dans le cadre des projets éducatifs de territoire pour assurer cette égalité. Et puis, comme des exemples ont été cités, je les cite moi aussi avec beaucoup de plaisir, nous avons un projet éducatif de territoire qui lie un parc avec l'éducation nationale. Et je vois que les idées circulent et que nous nous sommes inspirés des jolis petits sacs à dos. Merci, merci beaucoup à vous. Et puis, autre sujet, pendant le temps hors scolaire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, sur Aurillac, il y a un festival international de rue. Eh bien, grâce au CMEA, les lycéens de l'académie et hors académie peuvent contribuer. Donc, on voit une vraie volonté politique. Et alors ensuite, il m'était demandé de dire, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais quelles sont les espérances et quelles sont les nécessités d'action pour arriver à une vraie osmose, une vraie réalité entre la culture et l'éducation nationale. Déjà, il y a l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche, qui partout, pas aussi bien qu'ici, mais on voit pourquoi, eh bien, il y a cette osmose parfaite. Deuxième élément, il y a l'aspect des formations. Et je crois qu'il faut aller bien au-delà des formations entre des professeurs référents et autres, mais tous les enseignants doivent bénéficier des formations à la culture et à l'ouverture culturelle au-delà du montage des projets. et puis être ouvert à la créativité, à la modernité, et s'élargir au nouveau monde de façon à faire en sorte que, bien ma foi, que la vocation de l'éducation populaire soit respectée pour s'épanouir et agir dans la société et faire en sorte que ces jeunes soient parfaitement à l'aise et heureux et puissent lutter contre toutes les tyrannies. Merci à vous.
Merci beaucoup, Madame la Rectrice. Laura Adler nous quitte, donc je la remplace. Le changement de voix ne vous étonne pas. Je vais passer maintenant la parole à Isabelle Milliès.
Bien, donc je suis Isabelle Milliès, conseillère pour l'éducation artistique et l'action culturelle à la DRAC PACA. Je suis également présidente de l'Association des conseillers d'éducation artistique et d'action culturelle au niveau national. Et je vais poursuivre sans répéter, mais tout à fait dans la ligne de ce qui vient d'être dit par les DRAC et recteurs sur le rôle de l'institution dans la mise en œuvre de cette politique d'éducation artistique et culturelle. La première chose que je voudrais dire, c'est que de l'éducation populaire à l'éducation artistique et culturelle aujourd'hui, nous sommes passés d'une logique d'engagement, de militantisme, de passion pour la culture, à la logique d'un droit pour tous. Donc cette logique d'un droit pour tous, elle signifie que, on a parlé à un moment de généralisation, elle signifie que nous devons, nous les institutions, nous organiser pour que chaque enfant, chaque jeune adulte, et puis tout au long de la vie, tout un chacun puisse bénéficier de l'offre culturelle et de nos territoires. Donc ça, c'est la première chose. La DRAC, PACA et comme les autres, a développé pour ça des partenariats, donc partenariats, comme ça a été dit, entre ministères, mais également ces fameux partenariats avec les collectivités qui sont extrêmement importants, puisqu'ils ont permis de structurer ce que l'on appelle ce maillage de territoire, qu'il s'agisse des territoires denses en termes de ressources culturelles ou des territoires isolés ou peu habités par des propositions culturelles. Et donc, ces conventions, en PACA, on en a signé une vingtaine et une grande partie d'entre elles sont actuellement en renouvellement. Ce qui signifie que les collectivités y ont également trouvé leur compte, puisqu'elles nous sollicitent pour surtout renouveler avant qu'on arrive à la fin du contrat, de peur que quelque chose puisse s'interrompre, même si nous savons, nous, que quand la dynamique est lancée, même si la convention est interrompue, la dynamique continue. Elles nous ont permis donc de sensibiliser les collectivités et de les amener avec nous à des objectifs communs, de partager nos objectifs de l'éducation artistique culturelle pour tous, et puis d'essayer d'organiser la multitude de propositions ou au contraire l'absence de propositions artistiques sur les territoires. Donc ça, c'est extrêmement important puisque, d'une part, elles nous ont permis de mobiliser l'ensemble des ressources culturelles. On est ici en Avignon, donc bien sûr, tout le monde pense au spectacle vivant. Mais l'éducation artistique et l'action culturelle, c'est bien entendu aussi le grand champ que représente le patrimoine, qui est un champ extrêmement important et d'une certaine façon, le Festival d'Avignon rentre également dans ce champ patrimonial, très important aujourd'hui pour la transmission de ces fameuses valeurs que l'on essaye de définir de toutes les façons possibles, valeurs d'une société, valeurs culturelles, valeurs de la République, et qui nous permettent, à travers le patrimoine, d'avancer sur cette transmission, même si j'y reviens dans une seconde, c'est pas assez, je reprends la formule de mes prédécesseurs. Cette structuration, elle a permis donc de mobiliser l'ensemble des ressources sur un territoire, qu'il s'agisse des ressources des établissements publics nationaux, mais qu'il s'agisse également de la multitude d'opérateurs culturels qui sont cofinancés par les collectivités et l'État, et également la multitude de services ou opérateurs culturels qui sont financés uniquement par les collectivités. Donc je dois dire que dans ce travail-là, on met en œuvre, vraiment, on met dans le pot commun l'ensemble de nos richesses et de nos ressources pour travailler tous ensemble vers une offre qui ait un sens et des objectifs communs. Donc ça, c'est important. Dire également que dans les territoires où il y a peu d'offres culturelles, comme vous l'avez expliqué, c'est le moyen d'évaluer avec les collectivités la possibilité de faire venir des ressources, soit souvent sous forme de résidence. En ce moment, c'est beaucoup ce qui se passe. Ça peut être aussi la mobilisation d'opérateurs culturels qui sont un peu éloignés, mais qui peuvent, dans leur rayonnement, dans leur champ d'intervention, aller un peu plus loin. Et de ce point de vue, la réforme de l'État et des collectivités, avec les intercommunalités, va nous permettre probablement d'avancer lorsque les métropoles et les intercommunalités se seront dotées de façon beaucoup plus systématique des compétences culturelles. Je dois vraiment vous dire que là où les intercommunalités sont dotées de compétences culturelles, nous arrivons vraiment à un travail très large de maillage, y compris auprès des territoires qui étaient un peu abandonnés avant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une réforme qui va nous permettre d'avancer. Et puis, pour ne pas répéter, tout ce qui a été dit et que je partage par mes collègues, je voulais du coup mettre un petit peu sur la table les quelques chantiers qui nous restent maintenant à travailler, puisque rien n'est parfait et que nous sommes vraiment dans un chantier, on va dire, sur lequel il y a des points vraiment importants qu'il va nous falloir régler. Donc là, je ne vais pas apporter de solution, je vais poser les questions qu'il faut qu'on se pose tous ensemble dans les années qui viennent. La première question qui nous semble extrêmement importante, c'est celle de l'évaluation. Et au-delà de l'évaluation quantitative que nous avons pu mener, à titre juste d'exemple, en DRAC PACA, en 2006, j'avais moi-même opéré une enquête auprès de tous les opérateurs culturels. On était à moins de 2% d'enfants scolarisés touchés par un projet d'éducation artistique et culturelle. Cette enquête, elle a été menée auprès des opérateurs culturels que je remercie pour ceux qui sont là d'avoir gentiment répondu tous les ans. En 2012, nous étions à 39%. Vous dire le chemin fait quand même. Et puis, une enquête est actuellement en cours. Elle est menée par l'ARCAD pour nos services. Et j'espère qu'elle nous permettra d'avancer sur ces chiffres, puisqu'elle va intégrer également l'ensemble des actions qui sont menées en dehors du temps scolaire. Mais c'est aussi surtout d'une enquête qualitative dont je parle, et la convention que nous allons signer avec les deux académies de Nice et d'Aix-Marseille demain, que nos ministres vont signer, inclut ce chantier-là à venir, à savoir de trouver avec les universités des partenariats qui vont nous permettre d'évaluer sur des territoires désignés précis l'impact de ces politiques-là. Qui touche-t-on? Comment les touche-t-on? Quels sont les effets sur des cohortes, sur des générations? Qui ne touche-t-on pas? Et pourquoi? Voilà. Et ça, c'est là que je veux en venir. Nous savons aussi, à travers notre présence sur le territoire, que de nombreux jeunes, alors, ne sont pas touchés à travers l'école, mais ça, on y travaille ensemble et on va avancer. Mais même lorsqu'ils sont touchés à travers des projets menés à l'école, ils considèrent que cette culture-là n'est pas la leur. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose d'extrêmement choquant, de très troublant. C'est un constat sur lequel nous ne pouvons pas fermer les yeux et sur lequel nous devons vraiment avancer et réfléchir ensemble. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Florent Briard, de la barrière psychologique, certes, barrière psychologique à travailler, mais également, peut-être, est-ce une des pistes, prendre en compte le fait que les jeunes sont eux-mêmes producteurs de leur propre culture et trouver le moyen d'avancer plus ensemble, de croiser, et en tout cas dans nos formes de médiation, d'intégrer ces paramètres-là pour développer des projets qui ne sont pas descendants ou qui ne vont pas que dans un sens. Donc ça, c'est un chantier qui, à mon avis, est essentiel, et en particulier concernant tous les territoires prioritaires que nous avons identifiés. Et puis, le dernier point, c'est la formation, bien sûr, vous l'avez dit, madame. La formation continue, je crois qu'elle est assez bien menée avec les opérateurs culturels qui développent en permanence pour les enseignants, pour les animateurs, pour tous les acteurs du territoire des formations, des stages. Par contre, la formation initiale reste vraiment un gros souci pour nous. Et j'espère, comme nous l'avons également signé, comme nous allons le signer demain, que nous allons pouvoir, dans les années qui viennent, avancer sur ce sujet-là. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci. Parmi toutes les questions qui traversent les questions que nous posons régulièrement dans le Conseil, ce sont celles vraiment qui touchent évidemment à l'égalité dans les territoires, l'égalité entre les territoires. Je vais passer maintenant la parole justement à Frédéric Callens, chef du bureau de la promotion de la citoyenneté, de la prévention des discriminations, à la commission Image de la diversité, au commissariat général à l'égalité des territoires pour les 5 prochaines minutes. 5.
5 minutes. Ça marche ? Oui. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc le commissariat général à l'égalité des territoires, c'est le ministère de la Ville, c'est l'administration du ministère de la Ville. Et ce ministère de la Ville, pour être très clair, intervient sur un périmètre territorial très délimité que sont les quartiers populaires. Et donc, évidemment, la dernière intervention résonne avec un certain nombre de constats que nous faisons sur ces territoires. Et quand on parle de risque de fracture, je pense aussi qu'on peut parler de fracture tout court aujourd'hui entre cette offre culturelle et ce que revendique en termes de besoins et ce qu'on identifie en termes d'enjeux sur ces territoires. Donc, on est confronté, effectivement, au ministère de la Ville, à une situation de non-rencontre, parfois, et très souvent, d'ailleurs, entre cette offre culturelle, souvent descendante, et puis une demande de justice sociale. Et donc, à nous, effectivement, de voir comment, effectivement, l'éducation artistique et culturelle peut répondre à un certain nombre d'enjeux. Ces enjeux sont connus, c'est ceux du vivre ensemble, des enjeux qu'on porte historiquement, mais qu'on porte plus difficilement dans un contexte politique que vous connaissez, extrêmement tendu, lié effectivement à ce contexte post-attentat, où un certain nombre de paroles, d'expressions très radicales se sont libérées depuis quelques mois et mettent en tension l'ensemble des acteurs et l'ensemble de ces enjeux. Alors évidemment, le ministère de la Ville prend sa part sur ce qui est initié par le ministère de la Culture et l'Éducation nationale et prend sa place à travers le financement important d'actions, à peu près 1600 actions en matière d'éducation artistique qui sont financées chaque année, un budget quand même en hausse, alors que les contraintes budgétaires sur l'État sont fortes. Je crois que nous mettons à peu près 10 millions d'euros chaque année, on était à 7 millions il y a 2-3 ans. C'est dire l'importance qu'on apporte à la question de la culture, car s'il y a bien des territoires, et je pense que ça pourrait être la même chose pour le monde rural, s'il y a bien des territoires qui ont un besoin de culture aujourd'hui, c'est bien les quartiers populaires, et la question de l'éducation populaire et des catégories populaires ou des publics les plus éloignés doit être au cœur effectivement de la réflexion de l'éducation artistique et culturelle, et c'est la contribution effectivement qu'on se propose de mener dans la réflexion, dans des échanges avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui nous caractérise effectivement au ministère de la Ville, c'est notre tissu associatif, c'est-à-dire qu'on a effectivement, pour ceux qui nous connaissent, un tissu associatif extrêmement dense, en situation parfois de très grande précarité, compte tenu des réductions de budget, mais extrêmement important pour nous et qui nous permet effectivement d'être régulièrement interpellés. Et heureusement, il y a encore de l'interpellation du bas vers le haut, une interpellation qui peut être parfois extrêmement violente, compte tenu de la situation que vivent les habitants sur ces territoires, en tout cas un certain nombre de catégories d'habitants sur ces territoires. Et donc nous essayons effectivement, à travers la culture, de répondre à un certain nombre d'enjeux. Alors ça passe effectivement par l'éducation artistique et culturelle et par un certain nombre d'axes stratégiques que nous essayons effectivement de porter. D'abord, premier enjeu pour nous qui nous paraît essentiel, c'est la question de la transmission. Mais une transmission dans les deux sens, c'est-à-dire qu'est-ce que nous aussi, alors transmission vis-à-vis des publics, mais aussi qu'est-ce que nous avons à apprendre de ces publics et comment ces problématiques qui sont identifiées parfois par des habitants, comment elles nous questionnent et en quoi effectivement elles nécessitent qu'on revoie un petit peu nos cadres d'intervention et notre mode opératoire à travers des approches beaucoup plus remontantes. Et le risque quand on travaille dans les ministères, vous le savez tous, c'est d'être dans des approches très cloisonnées, très verticales. Un des enjeux, ça va être effectivement une mise en débat d'un certain nombre de ces problématiques avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Culture, et de voir comment, ensemble, on développe un travail et on une offre, en tout cas en direction de ces publics, qui soit un peu mieux adaptée à la réalité de ces territoires et aux besoins des habitants, tel qu'il nous est exprimé. Deuxième enjeu, c'est la question de la diversité culturelle. On ne peut pas aller sur ces territoires sans prendre en compte ou sans travailler cette question de la diversité culturelle. Quand je parle de la diversité culturelle, je parle aussi de la diversité culturelle du point de vue des origines. Il suffit de regarder effectivement la table, les intervenants à cette table, pour voir qu'effectivement, on souffre quand même dans le monde culturel d'un manque de diversité culturelle. Et je crois que d'ailleurs qu'il y a une mission très importante au ministère de la Culture sur la diversité culturelle et sur la nécessité de mieux en prendre en compte cette diversité culturelle. C'est une exigence, en tout cas, qui est incontournable quand on travaille au ministère de la Ville, sur laquelle on souhaiterait effectivement être sans doute un peu mieux accompagné, un peu mieux compris par nos partenaires pour qu'effectivement, les personnes sur les territoires, les citoyens, se retrouvent un peu mieux dans cette offre culturelle qui leur est proposée. Autre enjeu qui me paraît très important, c'est la question de la participation, et ça revient effectivement à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire à ces approches remontantes, c'est quelle place on donne aux habitants dans le champ de l'éducation artistique. Et vous savez que toute la dernière réforme de la politique de la ville a placé effectivement la question de la participation des habitants au cœur effectivement de l'action du ministère de la Ville, avec la création de conseils citoyens dans tous les quartiers populaires, qui vont être des espaces de résonance autour d'un certain nombre de problématiques, dont la problématique de la culture et les problématiques artistiques. Je pense que là, il y a une opportunité aussi à ce que chacun, et pas seulement le ministère de la Ville, se saisisse de ces espaces qui vont être des espaces de débat et qui vont confronter les acteurs et les professionnels que nous sommes à une expression qui peut parfois être bousculante, mais qui est nécessaire, effectivement, pour contribuer à avoir des modes d'intervention mieux adaptés. Et d'ailleurs, ce débat doit être permanent. On en discutait tout à l'heure avec Emmanuel. On doit, effectivement, être en permanence, en débat, en questionnement autour de cette notion d'éducation artistique et culturelle et la faire évoluer en permanence. Rien ne doit être figé autour de cette notion. Et puis, il y a autre enjeu. On n'intervient pas, effectivement, en milieu rural ou en milieu périurbain sans, effectivement, prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont liés au contexte, liés au territoire. La connaissance des territoires, les problématiques qui sont visibles et identifiées sur ces territoires sont des éléments, évidemment, à prendre en compte et doivent nous questionner avant d'intervenir sur ces territoires. Voilà ce que je pouvais, effectivement, vous dire en termes d'introduction.
Merci beaucoup.